Hola, queríamos recordar la página madrid.tomalaplaza.net.
Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine du reportage du samedi sur France Inter.
En direct du studio 611, une émission réalisée par Pierre Jabot, assistée de Karen Dehé, avec Raphaël Rousseau et Charles Pellabon à la technique.
Au sommaire cette semaine, état d'urgence en France et de l'indignation aux élections avec Podemos en Espagne.
Je suis pas venu vous faire une leçon d'islamophobie, vous avez bac plus 10 en islamophobie. Je suis pas venu vous dire que... Il y a un problème avec l'état d'urgence. Il y a des gens dont on défonce la porte à 3h du matin. Si tu veux faire barrage au FN, jette-toi sur la route.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent ?
État d'urgence ou état de droit ? Un mois après les attentats et la proclamation de l'état d'urgence, l'heure du premier bilan a sonné. 2500 perquisitions administratives, c'est-à-dire à l'écart de tout contrôle judiciaire, ont été effectuées. Domiciles, mosquées, commerces ont été retournés et rien n'indique qu'une telle frénésie va s'arrêter. Mais au final, seules deux instructions ont été ouvertes pour faits supposés de terrorisme. C'est dire que la pêche est bien maigre au regard de la taille du filet. Mais que dire de l'effet sur les populations visées ? Car l'état d'urgence et le climat de guerre intérieure contribuent au renforcement des amalgames et à la propagation de l'état de psychose. Ce ne sont pas les terroristes qui sont terrorisés, mais bien les personnes victimes de l'arbitraire en raison de leur confession. Sortir de l'état d'urgence pour que les abus cessent, c'est aujourd'hui ce que réclament plus d'une centaine d'organisations. Conférences, débats, rencontres auxquelles Guy Vanctil a assisté avec une question qui revient. État d'urgence ou état de droit, dans quel état voulons-nous vivre ? Inefficace pour la sécurité, dangereux pour les libertés, l'état d'urgence a au moins l'avantage de jeter momentanément un voile sur l'inefficacité de politiques qui n'ont plus rien à offrir. Et alors que demain se déroulent en Espagne les élections législatives, Antoine Chao, lui, revient sur la création de Podemos, un parti qui a insufflé un changement radical dans la façon de faire de la politique en Espagne et qui a ouvert la brèche pour un nouvel espace politique. Comme un bruit qui court, de l'état d'urgence en France et de l'indignation aux élections en Espagne, c'est jusqu'à 17h et c'est sur France Inter.
Antoine Chao, Charlotte Berry,
Guy Vanctil, comme un bruit qui court.
Hashtag comme un bruit.
Nous allons vivre avec cette menace terroriste.
Mais prolonger l'état d'urgence et prolonger les mesures d'exception, ça veut dire que l'état de droit n'est pas assez solide.
L'état d'urgence, c'est l'état de droit.
Ah, c'est l'état de droit ou c'est l'état d'exception ?
Non, c'est l'état de droit et l'état d'urgence.
Depuis la semaine dernière, la vie de Bilal a littéralement basculé. Il doit pointer au commissariat 4 fois par jour.
15 ans que Rachid travaille comme bagagiste à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Il est assigné à résidence.
Ahmed ne comprend pas ce qui lui arrive. Ce gardien d'immeuble se défend d'être un islamiste radicalisé.
Il était environ 10h du matin ce jeudi, lorsqu'un important dispositif...
Les policiers entament alors une fouille musclée, comme le montrent les images de vidéosurveillance.
Et là, on entend des gros booms sur la porte.
Cette porte a dû prendre au moins 10 coups de bélier.
Il y a donc des policiers casqués, avec boucliers, qui pointent mon visage, donc avec 2 pistolets.
Ils m'ont mis à genoux, ils m'ont mis les mains derrière le dos, ils m'ont menotté.
Mes enfants m'ont vu par terre, m'ont vu menotté.
Ils m'ont mis violemment par terre et ils m'ont mis les menottes.
Moi, à la limite, j'accepte d'être une victime collatérale, mais je pense que ça aurait pu se faire autrement.
Le traumatisme, lui, est irréparable.
Les assignations à résidence, les perquisitions permettent précisément de lutter contre le terrorisme, contre la délinquance, contre tous les actes qui peuvent mettre en cause aujourd'hui l'état de droit.
C'est maintenant devenu une brève quotidienne de période d'état d'urgence post-attentat. Après la météo du jour, le nombre des perquisitions de la veille et le marronnier de ceux qui en ont payé les pots cassés. L'enfant blessé, la mauvaise porte défoncée, l'erreur d'étage, plus souvent encore l'erreur de client. Pas étonnant que les résultats concrets de ces opérations de police d'exception ne soient pas au rendez-vous. Pas étonnant que de plus en plus de voix, d'associations, de citoyens se retrouvent dans l'appel lancé ce jeudi par la Ligue des droits de l'homme, sortir de l'état d'urgence. Et ce sont ces voix que nous allons entendre aujourd'hui. Mais pendant que certains se soucient des dégâts de cette suspension de la Convention européenne des droits de l'homme, politiquement, à de rares exceptions près, c'est le silence dans les rangs. Car à court terme, tout le monde en profite. Le gouvernement montre qu'il fait les gros bras pour nous protéger. L'opposition répète que c'est bien la preuve qu'elle avait raison. Et même les terroristes de Daesh jubilent. Nous sommes en train de tomber dans leur piège, puisqu'il faut le rappeler, nous faisons exactement ce qu'ils attendaient. Car il est une chose qu'il ne faut pas oublier. La logique de guerre abolit parfois le jugement aussi facilement que l'état d'urgence abolit les juges. Cette logique martiale qui s'est par exemple étranglée de rage en voyant des associations antiracistes organiser un meeting dès la semaine dernière pour dire attention aux abus et à l'islamophobie, et c'est avec eux que nous allons commencer ce tour de piste. Comme un bruit qui court, sortir de l'état d'urgence. Vendredi soir, on est à la Bourse du Travail de Saint-Denis. Les participants commencent à arriver pour un grand meeting pour une politique de paix, de justice et de dignité. Une tribune unitaire, un collectif d'associations et de personnalités qui ont lancé cet appel. C'est à l'initiative du site Contre-Attaque. Le mot d'ordre, c'est la paix, la justice et la dignité contre les dérives racistes et islamophobes de l'état d'urgence, contre la politique guerrière de la France, contre le tout sécuritaire et l'état d'exception liberticide. Et vous vous direz, quel est ce rassemblement d'islamo-gauchistes ?
C'est très bien. Merci beaucoup à vous d'être venus aussi nombreux. Juste pour vous donner le contexte de l'organisation de ce meeting de politique de la paix, de la justice et de la dignité, on est plusieurs à avoir eu du mal à réagir après les attaques du 13 novembre. On s'est réunis le 14 en se disant, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait pour répondre à ça ? Et on a bien vu, avec les perquisitions abusives, avec la stigmatisation croissante et les actes islamophobes qui ont augmenté, qu'on avait raison. Et comment on fait pour proposer quelque chose d'autre qui puisse parler à la dignité de chacun d'entre nous et qui puisse rappeler les fondamentaux ? C'est pour ça qu'on a organisé donc deux tables rondes. La première s'intitule « Guerre, intervention étrangère et terrorisme ». La deuxième table ronde, état d'urgence et islamophobie, permettra de répondre évidemment à des questions qui nous sont essentielles ici. Sans plus attendre, on a aujourd'hui une invitée d'honneur, Salma Yacoub. Elle nous vient d'Angleterre. Elle a été conseillère municipale de Birmingham. C'est l'une des porte-paroles, l'un des visages de la coalition Stop the War en Angleterre, donc coalition contre la guerre. Donc Salma Yacoub qui est ici.
Demonizations of Muslims and Islamophobia that we are witnessing today is not accidental.
Cette diabolisation des musulmans, cette islamophobie dont nous sommes les témoins aujourd'hui n'est pas là par accident, par hasard.
It is a weapon of mass distraction.
C'est une arme de distraction massive, de diversion massive utilisée par des élites qui tirent des profits aussi bien quand c'est la guerre que quand les services publics sont privatisés.
A scared population asks less demanding questions of its leaders.
Une population terrorisée pose moins de questions difficiles à ses dirigeants.
For me, the dividing line is not Muslim, non-Muslim.
Pour moi, la limite ne se situe pas entre musulmans et non-musulmans, entre femmes et hommes, entre homosexuels et hétérosexuels.
It's between the oppressed and oppressor.
Elle est entre les opprimés et les oppresseurs.
If you are oppressed and you are not a Muslim, and you are a man,
si vous êtes opprimé mais que vous n'êtes pas musulman et que vous êtes un homme, que vous êtes homosexuel, je suis de votre côté.
Because there cannot be peace without justice, and you cannot have justice without equality.
Car on ne peut pas avoir de paix sans justice et pas de justice sans égalité.
It is the antidote to both extremists, both sides of the spectrum.
C'est l'antidote aux extrémistes des deux côtés, des deux bords.
Both the racist neoliberal onslaught and the threat of extremism and fundamentalism.
D'un côté le racisme, les attaques racistes et néolibérales, et d'un autre côté la menace de l'extrémisme fondamentaliste.
And together, we really can make a difference.
Et ensemble, nous pouvons vraiment faire quelque chose qui fera la différence.
Merci beaucoup, Salma Yacoub, pour cette intervention.
400 personnes dans la salle, c'est ça la contenance ?
Je pense qu'on aura plus.
Comment je vous présente ?
Bon, je m'appelle Atim et nous sommes un collectif de plusieurs organisations de toute appartenance. Et nous nous retrouvons ce soir, c'est un rassemblement citoyen qui défend les libertés publiques, notre état de droit. Nous sommes tous des enfants de cette République. Nous avons tous cette fibre d'appartenance nationale. Nous l'assumons et nous assumons cette diversité au sein d'une même nation et d'une même République. Il y a un climat inacceptable. Il y a des appels à la peur, des appels à la haine, des appels à la stigmatisation. Mais ce que vous voyez ce soir, ce n'est pas un appel des musulmans pour les musulmans, pour défendre une cause musulmane. Absolument pas. C'est un franc citoyen. Vous allez trouver des athées, des musulmans, des croyants, des non-croyants, des hommes, des femmes, mais qui partagent avec les musulmans leur droit de participer à la construction de leur société, leur droit à leur citoyenneté. Et nous, nous défendons ces valeurs.
Je vais tout de suite passer la parole à Alain Grech, qui est journaliste, directeur adjoint du Monde Diplo, qui anime le blog Nouvelles d'Orient et qui est très actif sur la question de l'islamophobie depuis un certain nombre d'années déjà. Merci beaucoup Alain, on peut l'applaudir.
Alain Grech, très tôt après les attentats du 13 novembre, vous avez publié une tribune qui disait « Il faut raison garder ». J'ai envie de vous demander maintenant où on en est. Plus d'un mois après.
Écoutez, on n'a pas du tout gardé la raison, on a au contraire réagi dans le sens de mise en demeure au nom de la sécurité, de la guerre, d'une espèce d'unité nationale qui n'existait pas et surtout d'absence de discussion politique. Et le fait que le Parlement ait voté quasiment unanimement et la guerre et l'état d'urgence montre une espèce d'état de paralysie de la classe politique qui refuse d'engager un vrai débat. Le Premier ministre évoquait une intervention en Libye. On en a déjà fait une avec les résultats qu'on connaît. On a intensifié la présence de la France en Irak et on a aggravé le climat de tension qui existe en France, au nom d'ailleurs du fait qu'on est en guerre.
Ce sur quoi vous insistez bien, Alain Grech, c'est comment ces attentats ont été une réponse, un message clairement envoyé par l'organisation terroriste Daesh à nos sociétés et à nos politiques. Dans la revendication de Daesh, qu'est-ce qu'il voulait ?
Oui, c'est-à-dire, d'une certaine manière, Daesh vise un certain nombre d'objectifs et on a l'impression qu'on joue dans leurs mains. C'est-à-dire, l'État islamique dit d'un côté, veut attirer, entre guillemets, les troupes occidentales sur le terrain proche-oriental pour dire, regardez, ils interviennent chez nous, ce sont les nouveaux croisés, nous nous battons. L'État islamique est la forme de résistance à ça. Et puis, ils ont un autre objectif, c'est de créer une fissure entre les citoyens européens de confession musulmane et les autres. Et là aussi, les mesures prises semblent leur donner raison. Et on a une contradiction entre un discours officiel qui dit « mais nous ne visons pas les musulmans », mais quand on voit l'essentiel des perquisitions, des assignations à résidence, etc., ce sont des musulmans. Et là aussi, dans 90% des cas des assignations à résidence, en tous les cas, il n'y a rien contre eux, puisque maintenant, on peut être assigné à résidence en raison d'un comportement, on ne sait pas ce que ça veut dire, qui est suspect. Et quand le ministre de l'Intérieur ou le Premier ministre met en avant les armes saisies, etc., en général, c'est parce qu'on est descendu chez des trafiquants de drogue et qu'on aurait pu très bien y aller sans état d'urgence. Je veux dire, ça n'a aucun rapport avec la guerre contre le terrorisme. On habitue la société à des mesures d'exception qui sont prises sans contrôle judiciaire. C'est ça la question. Et ça, ça touche tous les citoyens. On l'a vu en partie, il y a eu toutes ces affaires de militants écologistes assignés à résidence parce qu'on ne voulait pas déranger la COP21. Mais bon, je dirais que c'est quand même une atteinte à des libertés fondamentales. Ce qu'on fait à un niveau très modeste ici ce soir, c'est justement essayer d'ouvrir une autre perspective.
Merci beaucoup Alain Grech. On va passer tout de suite à la deuxième table ronde pour introduire cette table ronde donc, qui s'appelle « État d'urgence et islamophobie » et qui va s'attacher à recontextualiser un peu ce qui se passe. Donc je vais demander aux différents intervenants de monter, s'il vous plaît. Ismaël Schouder.
Bonsoir. Je suis vice-présidente de la commission Islam et laïcité
et coprésidente du collectif des féministes pour l'égalité. On doit faire en sorte que le débat et le partage de la réflexion ne soient pas aliénés par l'état d'urgence. Donc, à ce titre-là, nous n'avons pas de devoir supplémentaire par rapport aux autres Français de nous justifier, de nous désolidariser, de condamner et donc d'être rendus comptables de ça. En tant que Française, j'ai une identité, une part de mon identité qui est musulmane, mais elle ne s'oppose pas, elle n'entre pas en contradiction avec les autres parties de mon identité. Je suis certainement pas juste une femme voilée, je ne suis pas résumable ou réductible à mon foulard, sûrement pas. Je suis une femme, je suis provençale, je suis française, j'ai des origines, j'ai une culture, j'ai des espoirs, j'ai des peurs, comme tout le monde. Et justement, quand je souhaite être interpellée au même titre que n'importe quel Français et Française, par rapport à un projet sécuritaire qui risque, au contraire, de nous séparer et de nous fracturer de manière irréductible.
Et que vous, je vous coupe deux secondes, mais vous, femme musulmane qui portez un voile, vous êtes forcément soumise, vous êtes forcément en retrait, vous êtes un axe de soumission à la distinction des femmes et des hommes.
Oui, absolument, évidemment. Parce que pourquoi ? Parce que je symbolise dans le discours fantasmé ou essentialisé, et ça c'est problématique, parce que c'est comme ça qu'on essentialise, qu'on construit l'autre, alors, comme un ennemi de l'intérieur, comme une menace, et que finalement c'est cet autre, en fait, donc moi, par la force des choses, qui est construite comme cet ennemi intérieur, ennemi alors à nos valeurs, à la République, à la laïcité, à l'égalité homme-femme. Et moi, tout ce que je demande, et en fait c'est même pas une demande, hein, c'est une exigence, voilà. Au-delà d'une demande, c'est une exigence, c'est que venez me demander qui je suis et que finalement mes actions, ce sur quoi je suis engagée au quotidien avec mes concitoyens, parlent beaucoup mieux que tous les discours qui sont construits sur moi et sans moi et sans ma parole.
Je vais tout de suite passer la parole à Michel Toubiana, qui est avocat, ancien président de la Ligue des droits de l'homme. La Ligue des droits de l'homme a lancé un appel sur la question de l'état d'urgence. Vous allez nous en parler. Michel Toubiana pour la Ligue des droits de l'homme.
Pour être complet, la Ligue n'a pas pris position contre la programmation de l'état d'urgence. Je pense qu'il y avait là un moment de tétanisation collective, de besoin aussi des forces de l'ordre de réagir, qui pouvait justifier cette courte période. Ce qui intervient après, en revanche, est d'une autre nature. D'une autre nature, d'abord parce que c'est jamais bon quand 6 députés sur 560, je crois, s'opposent simplement et qu'un texte de cette nature est voté en 48 heures à la hussarde et au canon. Ensuite, c'est les mesures qui sont prises et qui sont aggravées dans l'état d'urgence par rapport au texte initial. Et aggraver ces conditions ne pouvait que conduire à une stigmatisation des musulmans, à une restriction des libertés. Donc, je suis d'autant plus inquiet que, continuant à jouer sur la peur et hochant le menton de manière martiale, le Premier ministre nous promet une réforme, cette fois-ci constitutionnelle, pour mieux gérer, au fond, les libertés que l'État voudra bien nous laisser. C'est pas ça une démocratie. Non, ce qui est en jeu, là, c'est vraiment une conception de la société. Au fond, quelqu'un l'a résumé beaucoup mieux que quiconque. Souvenez-vous des propos du Premier ministre norvégien à la suite du massacre 80 personnes, si j'ai bonne mémoire quand même.
Par Breivik.
Il me dit à peu près ceci, ils veulent que l'on change, on ne changera pas. Et on aura encore plus de démocratie, encore plus de liberté. J'observe que nos gouvernants à nous répondent, moins de démocratie, moins de liberté.
C'est la civilisation judéo-chrétienne dont nous sommes les héritiers aujourd'hui, qui est menacée par ce que j'appelle l'islamofascisme en Syrie, mais aussi à travers les cinquièmes colonnes et ces réseaux infiltrés dans nos caves, dans nos garages, dans
vous
les lieux clandestins.
Vous y allez fort, cinquième colonne.
Oui, j'y vais fort. C'est une troisième guerre mondiale qui nous est déclarée aujourd'hui.
N'hésitons pas à le répéter, l'heure est grave, l'état d'urgence est décrété. Non, pas question de garder le silence, cette voix revient comme un cauchemar, diaboliser nos différences. Ici ça pue, j'ai la nausée, une profonde indignation, comment rester les bras croisés? Cette voix c'est le poison qui tourne en rond dans son bocal, mon identité ne sera jamais nationale. Cette voix n'a pas de couleur, comme la connerie ou l'ignorance, elle puise sa force dans la douleur, l'humiliation et les offenses. C'est l'éloquence pour nous monter les uns contre les autres, elle te rabâche en continu qu'il y a l'étranger et il y a les nôtres. Mon identité elle est plurielle, elle est changeante et heureusement, elle n'hésite pas à prendre la tangente, elle s'inspire de toute culture, s'inspire de tout étoile. Elle a les bras ouverts et considère tout homme à son égal.
Mais cette voix veut me tirer vers le fond. C'est cette voix, encore une fois, que je combats sans rémission. Dressée contre son ordre, contre sa morale, mon identité ne sera jamais nationale. N'hésitons pas à le répéter, l'heure est grave, l'état d'urgence est décrété. Donc pas question de garder le silence, cette voix revient comme un cauchemar, diaboliser nos différences. Et si ça pue, j'ai la nausée, une profonde indignation, comment rester les bras croisés? Cette voix c'est le poison qui tourne en rond dans son bocal. Mon identité ne sera jamais nationale. Jamais nationale, jamais jamais nationale. Mon identité ne sera jamais nationale. Jamais nationale, jamais jamais nationale. Mon identité ne sera jamais nationale. Jamais nationale, jamais jamais nationale. Mon identité ne sera jamais nationale. Jamais nationale, jamais jamais nationale. Mon identité ne sera jamais nationale.
Moi j'ai un appel ce soir à lancer aux Français musulmans. Contre le fanatisme, il faut qu'ils disent « ça n'est pas notre religion ». Et c'est eux qui peuvent le dire, c'est pas nous, naturellement.
Comme un bruit qui court.
Sur France Inter.
Bonjour.
Là, c'est mon bureau, donc on va rentrer.
Oui, t'as copié-collé.
Bonjour les filles.
Ah oui, nous avons... on va te laisser.
Donc là, c'est Madame Lila Charef, oui, qui est la responsable du pôle juridique. Nous avons cette jeune fille qui est juriste à nos côtés. Et nous avons ici Isabelle, qui est en charge de la rédaction et du site internet.
C'est Seyev, bonjour.
Ah oui, attendez, je vais voir qui est la juriste en charge de votre dossier. Ok, d'accord, je vous passe la juriste. Hein. Alors, donc, je m'appelle Leïla, je suis l'assistante juridique du CCIF, collectif contre l'islamophobie en France. Je suis chargée de recevoir les plaintes des victimes d'islamophobie. Mais là, depuis l'état d'urgence, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Avant, c'était... je réponds et après je...
Ouais.
CCIF, bonjour.
Alors c'est Yasser Louati, porte-parole du CCIF, collectif contre l'islamophobie en France, CCIF. Là c'est mon bureau, toujours mal rangé.
Mais qu'est-ce que je vois comme livre sur votre bureau? The Silence Majority, la majorité silencieuse
de
Amy Goodman, qui est une journaliste, militante, altermondialiste, états-unienne.
From Pacifica, this is Democracy Now!
Exactement, donc j'étais intervenu au lendemain des attaques. En fait, c'était le jour où les musulmans s'étaient rassemblés pour poser une gerbe à la mémoire des victimes près du Bataclan. Et puis, bon, ben, elle m'a offert son livre dédicacé que je suis en train de lire.
I'm Amy Goodman. Reports of Islamophobia have already emerged following the Paris attacks. For more, we're joined in Paris by Yasser Louati, spokesperson for the Collective Against Islamophobia in France.
Parce que faut dire aux auditeurs que vous êtes un parfait anglophone.
Oui.
Et d'ailleurs, vous vous êtes fait remarquer là, avec plusieurs interviews données à la presse américaine et internationale, CNN en particulier.
Tout CNN, oui, c'était celle qui a fait le buzz et qui est devenue virale.
And this is CNN.
We have more now on how the Muslim communities in France are reacting to these attacks.
Yes, Yasser Louati joins us from Paris.
Why is it that no one within the Muslim community there in France knew what these guys were up to?
Because oui, oui. Comment ça se fait que personne dans la communauté musulmane française ne soit allé balancer les terroristes, puisque forcément les musulmans devaient savoir que ça se préparait?
And that was probably within the Muslim community, but yet no one said anything.
Exactement. Donc ils viennent de vos rangs, ils viennent de chez vous, donc forcément vous étiez au courant. Moi j'ai répondu dans ce cas-là. Pourquoi est-ce qu'ils ont tué des musulmans aussi?
En France, on a inventé ces mots. L'islamophobie, c'est un mot, par exemple, pour éviter de parler du danger que représente la radicalisation au sein de l'islam. Voilà, il faut arrêter de regarder ailleurs.
CCIF, bonjour.
Alors, moi, j'étais très inquiet avant de venir ici parce que je suis malheur de tomber sur un édito qui a été publié sur Facebook par le représentant de la délégation interministérielle de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, Gilles Clavreul, qui m'a dit quand même que j'arrivais dans un bastion de l'offensive anti-républicaine auprès d'un collectif antidémocratique qui menace notre société, qui légitime l'islamisme, qui défend les prédicateurs, bref, qui veut culpabiliser les républicains et enfermer la jeunesse des quartiers populaires par des discours victimaires d'enfermement et de régression.
Gilles Clavreul ne s'honore pas avec de tels propos. Il s'est illustré dans sa première interview sur Libération où il a procédé à une hiérarchisation des racismes, disant que certains étaient plus intolérables que d'autres, donc les victimes apprécieront. Pourtant, il a eu le temps de voir différentes organisations antiracistes, notamment aux États-Unis, alors qu'il n'est pas capable de venir voir le collectif contre l'islamophobie en France, qui est basé juste ici à Paris.
C'est intéressant que vous parliez des États-Unis, parce que c'est une des critiques qui est avancée. Il y a des organisations comme la vôtre, c'est vous importez en France le modèle communautariste à l'américaine, où les musulmans s'occupent des musulmans, les hispaniques des hispaniques, les noirs des noirs, en mépris du modèle universaliste de la République française. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
On ne savait pas qu'il fallait déléguer une lutte contre les discriminations qu'on subit soi-même. Je rappelle, personne ne l'a fait. Donc on ne peut pas nous reprocher de faire un travail que les autres ne veulent pas faire, puis nous dire « Ah mais malheureusement, vous le faites et ça nous pose problème ». Le CCIF compte des militants et des sympathisants de toute confession. L'équipe que je dirige ne compte pas une seule femme voilée, ça je tiens à le rappeler. Dans mon équipe, il y a des personnes qui sont de confession musulmane et il y en a qui n'ont même pas de religion. Et cet idéal de justice, il n'est pas réservé aux musulmans, il est réservé à tout le monde.
CCIF, bonjour. Oui, je vous écoute. D'accord. Et la perquisition a eu lieu quand ? D'accord. Donc là, il est en garde à vue, hein, c'est ça ? Est-ce qu'il vous en remet un document suite à la perquisition ? D'accord. Alors, je vais vous envoyer un mail avec tous les premiers conseils qu'on dispense aux personnes perquisitionnées. Et je vais vous créer un dossier pour savoir si on peut vous mettre en relation avec un avocat qui peut vous accompagner, d'accord ? S'il y a eu des dégâts, n'hésitez pas à prendre en photo. Ça marche. À plus tard. Au revoir. Voilà, encore une perquisition. Donc les parents sont âgés et ils ont pris le fils qui habite avec eux, âgé de 28 ans. La perquisition a eu lieu ce matin à 4h. Donc elles demandaient de l'aide, qu'est-ce qu'on fait ? Enfin, ils savent pas pourquoi leur fils a été pris, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Donc on va voir qu'est-ce qu'on leur reproche. Voilà, savoir s'il est fiché, etc. Mais oui, c'est vrai que l'état d'urgence va permettre de coincer un ou deux réellement dangereux, mais bon. À côté, on a des milliers de familles traumatisées pour rien, des enfants. CCIF, bonjour.
L'islamophobie est une escroquerie. Mais c'est lui qui, grâce à des porte-paroles complaisants, jure avec aplomb être le persécuté, le mal-aimé. Ceux qui alertent sur une prétendue hystérie islamophobe participent en fait, par leur cynisme, à la banalisation de la fureur qui se déchaîne contre les chrétiens et les juifs.
L'état d'urgence est en place depuis un peu plus d'un mois. Pour quelle efficacité en matière de lutte contre le terrorisme ?
C'est une histoire de fou, explique Michael. Il est catholique, mais pour la police, c'est un salafisme.
Quel bilan on peut faire, Yasser, après plus d'un mois de cet état d'urgence ? Parce que vous voyez, le CCIF, publié, vous relayez, vous assistez, beaucoup de ceux qui ont été ou perquisitionnés, ou assigné à résidence.
On va quand même prendre les chiffres, puisque eux sont têtus. Au week-end dernier, nous en étions à 2575 raids ou perquisitions, seulement deux ayant abouti à une enquête préliminaire. Donc encore une fois, on voit bien que la politique suivie est contre-productive. Par contre, la facture sociale, elle est extrêmement salée. On est en train de faire les mêmes erreurs qu'on a fait dans les années 90, taper dans le tas, à savoir la communauté musulmane. Et là, je cite un policier pendant une perquisition. L'ordre est de mettre un coupé dans la fourmilière, mais entre-temps, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons des enfants qui sont traumatisés, qui font dans leur lit systématiquement, des mères de famille qui ne veulent plus dormir chez elles, des pères qui ont été humiliés devant femmes et enfants, des biens qui ont été détruits. Par exemple, la perquisition brutale de la mosquée d'Aubervilliers. On sait très bien que toutes les mosquées sont perquisitionnées. Or, on a saccagé le lieu et on est reparti. Idem, on a perquisitionné la mosquée des Mureaux avec des chiens à l'intérieur. Et ça a été une humiliation subie par les fidèles qui se sont dit « on ne comprend pas pourquoi ». Et encore une fois, ils n'ont rien trouvé. Mais est-ce qu'on se rend compte des conséquences néfastes que cela peut produire ?
Je m'appelle Yacine, 30 ans, je réside dans l'Oise. Je suis dans le domaine de la climatisation.
Là, je vous vois avec votre djellaba, avec votre petite barbichette. Qu'est-ce qui vous est arrivé ?
On date du 20 novembre à 22h30. Un peloton est entré chez moi. Les souvenirs sont un peu flous parce que j'ai reçu pas mal de coups par la suite après.
C'était qui ? Le GIGN ou le RAID ?
Le PSIC. Le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Cagoule, casque, gants, lumière sur le front. On m'a demandé de me mettre au sol, etc. Ce que j'ai fait immédiatement. Il m'a tordu les bras. J'ai reçu des coups de pied au niveau du front. Un coup de crosse au niveau de la tête, sur le côté gauche, qui m'a pas mal sonné.
Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Tout au long de la perquisition.
On m'a demandé si j'avais quelque chose de dangereux sur moi ou chez moi ou autre. J'ai dit non, j'ai dit rien de spécial. Ils n'ont rien découvert chez moi non plus. Donc ça a duré peut-être environ 2h20 pour 38 mètres carrés. Quand je suis sorti dans la rue pour chercher mon chat, parce que j'avais peur d'avoir perdu mon chat, auquel je tiens beaucoup, J'ai bien vu qu'il y avait la rue. Et même mes amis m'ont dit aussi, des personnes m'ont dit, la ville était complètement, le centre-ville était complètement barré. Quoi.
À cause de vous ?
Oui, pour cette intervention. Ouais.
Et qu'est-ce que vous avez fait ? Parce que vous ne vous préparez pas à partir en Syrie ?
Non, j'ai jamais été dans cette optique. Je suis quelqu'un d'assez conscient de la situation, que ce sont des sectes qui dérivent. J'étais vraiment très surpris et outragé de la façon dont ça s'est déroulé et comment on m'a laissé au dépourvu aussi. Sans ambulance, sans assistance, sans question, sans...
Ils sont repartis comment ?
Ils sont repartis normal tous. La porte du bas défoncée, avec un froid qui rentrait épouvantable. Mais,
Comment ça se passe depuis ? Parce que j'imagine que ça a dû faire grand bruit.
Pas mal de versions véhiculées. Mes parents ont été touchés, ma famille, des personnes sont venues me rapporter différentes versions. Oui, on a dit de toi que tu étais en prison, on a dit de toi ceci, cela. Mais ils t'ont relâché, j'ai dit, mais on m'a jamais emmené. J'ai pleuré de l'insinuation, j'en ai ri aussi. Le lendemain, j'en ai rigolé aussi. Parce que je me suis dit vraiment, mais ça va trop loin, quoi.
Ahmed ne comprend pas ce qui lui arrive. Ce gardien d'immeuble se défend d'être un islamiste radicalisé.
Depuis la semaine dernière, la vie de Bilal a littéralement basculé.
Cet aveugle de petite taille est assigné à résidence dans son quartier de la Croix des Oiseaux.
Est-ce que le gouvernement a montré la moindre volonté de revoir sa copie ? Aucune. On parle même d'instaurer l'état d'urgence de manière permanente avec ce régime civil de crise en disant la menace terroriste est permanente. Et je vais vous surprendre, je vais même citer quelqu'un comme Alain Marceau, c'est qu'on est en train de traiter les conséquences et pas les causes du problème. Ceux qui sont perdants, ce ne sont pas seulement les musulmans, ce sont tous les Français. Parce que la surveillance généralisée, moi je l'ai connue quand j'étais aux États-Unis, on a vu à quoi ça aboutit jusqu'aux révélations de Snowden, et ça c'était parce que, soi-disant, c'est la lutte contre le terrorisme. Pourquoi est-ce que la machine à fabriquer des terroristes ne s'est pas grippée ? On sait très bien que le terrorisme se nourrit de trois choses. Il se nourrit du manque d'instruction, du chômage et de la pauvreté généralisée, et bien entendu de l'exclusion de certaines personnes. Et encore une fois, je ne suis pas en train de justifier. J'espère que mon propos va rester dans la bande. Je ne justifie pas. Il y a un mécanisme derrière. Et on ne s'est pas posé la question, pourquoi est-ce que le même problème se reproduit et qu'on est toujours à réagir ? Mais c'est parce que les responsables politiques n'ont plus rien à offrir aux Français. Quand on n'est plus en capacité d'offrir quoi que ce soit aux Français en termes de projets économiques, de projets sociaux, d'ambition pour le pays, eh ben on leur parle de cette menace construite de l'intérieur qu'on appelle la communauté musulmane. J'aurais aimé qu'on soit aussi agressif contre le chômage. J'aurais aimé qu'on soit agressif contre la fraude fiscale. J'aurais aimé qu'on soit agressif contre la destruction de notre sécurité sociale. J'aurais aimé qu'on remette l'école de la République au centre du pacte républicain. Donc, en gros, vous avez des personnes qui se disent, voilà, moi, je peux pas leur offrir ce qu'ils veulent en termes de politique sociale plus juste, en termes de combat contre le chômage, etc. Je vais seulement parler à leur peur parce que je n'ai plus que ça pour leur parler. Et c'est que comme ça qu'ils vont m'écouter.
Mais Yasser Louati, vous n'avez pas peur là de prendre à gros brousse-poil tous vos contenteurs et tous les critiques de l'islam en France, alors qu'ils attendent que vous me parliez d'islam, de religion, de communauté, de ouma. Vous me parlez de cause sociale, vous me parlez de chômage, vous me parlez d'intégration, vous me parlez des questions politiques.
Parce que pour les questions religieuses, on demande à un religieux, et je ne suis pas un responsable religieux, je suis un militant des droits de l'homme. Ce sont deux choses différentes, et je parle en tant que personne qui s'est expatriée à l'âge de 19 ans, et qui est revenu à l'âge de 32 ans, parce que mon pays me manquait, et je vois mon pays qui est en train de tomber en ruine. Nous vivons dans un pays qui a le système scolaire le plus inégalitaire de l'OCDE. Nous avons 130 000 décrochages scolaires par an. Pour un pays comme la France, c'est au-delà de la honte. Et pourtant, rien n'est fait. Mais ce qui occupe le débat, ce sont les débats identitaires, à savoir, est-ce qu'on est plus français en étant plus blanc ? Non, on n'est plus français si on adhère à un idéal commun. Je m'efforce d'y adhérer.
Une autre voix qui ne peut pas être taxée trop facilement de communautarisme, c'est Nicolas Hénin, journaliste, auteur du très bon livre « Djihad Academy ». Vous le connaissez car on l'avait invité en janvier dernier pour réfléchir aux risques de la provocation au combat que sont les attentats islamistes. Lui qui les connaît intimement, lui qui sur son profil Twitter se décrit sobrement comme journaliste indépendant avec une expérience inopinée du djihad et des terroristes.
Succès d'un attentat majeur n'est pas le fait des terroristes, il est le fait de la victime.
Sur comment elle réagira?
Exactement. Le vrai succès du 11 septembre, c'est pas l'effondrement des tours jumelles, c'est l'invasion de l'Afghanistan et de l'Irak. Rien dans la réaction américaine au 11 septembre, que ce soit avec ses aventures militaires, ni même avec le Patriot Act, l'ouverture de Guantanamo, rien n'a permis de lutter efficacement contre le terrorisme, rien n'a rendu l'Amérique plus sûre, et au contraire, ça a donné du carburant à la génération suivante de terroristes. J'ai le regret de constater que, aussi bien dans l'accélération de la campagne militaire, notamment en Syrie, que dans les actions sur le territoire national...
C'est-à-dire les perquisitions, les assignations à résidence...
Oui, et puis aussi le délitement, enfin, y compris dans les médias. J'ai l'impression que beaucoup de gens sont en roue libre. Plus personne ne se sent tenu par l'idée qu'il faille préserver un semblant de vivre ensemble. Alors qu'en fait, c'est précisément ce que recherchent les terroristes. Et c'est là qu'on revient sur cette conjonction d'intérêts entre les islamophobes d'un côté, les racistes, les populistes, et puis Daesh de l'autre. Les deux ont intérêt à ce qu'il y ait un clash, à ce qu'il y ait une confrontation, à ce que le tissu social se délite. Ils prétendent s'opposer, et en fait, ils se reflètent, ils sont dans une position de miroir. Marine Le Pen, elle a raison. La France aux Français. Vous savez qui m'a dit ça? Un djihadiste de mes geôliers, pendant que j'étais en Syrie.
Mais le problème, c'est que entre ces deux extrêmes, ceux qui sont censés garantir la cohésion nationale prennent des décisions. Je pense par exemple à la modification constitutionnelle et à la déchéance de nationalité, qui font partie de cette réaction attendue par Daesh.
Oui, moi j'ai eu quelques occasions d'échanger avec des musulmans au cours des dernières semaines, et ils sont en particulier choqués par les perquisitions dans les mosquées. Et je pense qu'il est bon que le public sache que quand un jeune va commencer à se radicaliser, à rentrer en contact avec un nouveau mentor sur Internet qui va commencer à lui parler du vrai islam, entamer le processus de lavage de cerveau en lui disant « l'islam que tu connais jusqu'à maintenant, en fait, c'est pas vraiment ça, moi je vais t'expliquer ce que c'est pour de vrai », la première consigne qu'il va lui donner, c'est « arrête d'aller à la mosquée ». Et d'ailleurs... De tout ce que j'ai pu voir des djihadistes que j'ai fréquentés, que ce soit pendant la période où ils me retenaient en Syrie, comme des échanges que j'ai pu avoir sur les réseaux sociaux par la suite, je me suis rendu compte à quel point ces gens-là n'ont pas de culture musulmane. Ce sont soit des convertis au sens propre, soit ce sont des reconvertis, ce qu'ils appellent des révertis.
Un peu comme donc, les born again.
Exactement, donc des born again. C'est des gens qui, à l'image d'un George Bush, qui redécouvre
la foi du Christ.
La foi du Christ part en croisade et arrête de se saouler. Eh bien, ce sont des gens qui, en général, ont eu un épisode de délinquance et décident de trouver le repentir sur leur vie de délinquant en tombant dans une nouvelle vie qui se trouve être une vie de criminel.
Encore un sentiment déjà vu, en fait. Vous avez parlé au début, Nicolas Hénin, du 11 septembre. C'est comme si on était revenu à la case 11 septembre avec notre guerre contre le terrorisme, avec les regards en biais au sein de la population, sauf que maintenant, ça se passe en France.
Tout à fait. Et c'est d'autant plus grave qu'on peut à la limite excuser les Américains en se disant qu'ils n'avaient pas de précédent. Nous, on a un livre d'histoire, on a presque un manuel de ce qu'il ne faut pas faire dans la foulée du 11 septembre, dans les années qui ont suivi cet attentat. C'est quand même dramatique qu'on n'en tire pas le bénéfice.
Sortir de l'état d'urgence, retrouver les liens et les informations sur le site de l'émission à l'adresse franceinter.fr. Merci à toutes et à tous. Et maintenant, je vous propose, avec Antoine Chao, un peu d'espoir. On part changer d'air à Madrid, à la Puerta del Sol, avec l'héritage des indignés et du Kense Aimé.
Comme un bruit qui court
sur France Inter.
Hola.
C'est les groupes de travail, grupos de trabajo, en économie, los distintos tipos de bancas. Alors là, voilà, là ils expliquent les différentes banques. Donc c'est aussi de la pédagogie populaire, de l'éducation populaire.
Gente de las comisiones.
Aquí tus propuestas. Ici tu peux faire des propositions en politique, en économie, en environnement, en culture, éducation, en immigration, en féminisme, si quelqu'un a rajouté, tu peux faire tes propositions. Alors là, il y a un grand panneau, c'est Ahora o Nunca. Maintenant ou jamais, et ils ont barré le jamais. Nous sommes de plus en plus efficaces, de plus en plus organisés. Nous nous rapprochons de la réalisation de notre rêve. C'était en 2011, Puerta del Sol à Madrid et dans beaucoup d'autres places espagnoles occupées pendant plusieurs semaines par les indignés espagnols, los indignados. El 15M, comme on l'appelle là-bas, comme le 15 mai, date du début de l'occupation de la Puerta del Sol, a été un moment fondateur. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, cette effervescence citoyenne s'est en partie transformée en une dynamique politique portée par le tout jeune parti Podemos qui a décollé aux européennes en mai 2014 et aux municipales et régionales tout dernièrement. Et demain, dimanche, le résultat des élections générale, l'espagnol est attendu avec impatience, notamment par les militants et sympathisants de Podemos. Une échéance électorale de tous les dangers pour le bipartisme sclérosé et corrompu, hérité de la dictature franquiste, et de tous les espoirs donc pour Podemos, mouvement politique citoyen et transversal, animé de la volonté de changer la destinée du pays et de mettre en mouvement une société espagnole tétanisée par la crise. Héloïse Ney, pourquoi vous êtes intéressée à Podemos?
Alors en fait, avant de m'intéresser à Podemos, je me suis intéressée au mouvement des indignés. Moi j'ai commencé, donc je suis sociologue, je m'intéresse aux questions de démocratie participative, de mouvements sociaux. Et j'ai commencé à mener des enquêtes en Espagne avec l'émergence des indignés, donc en mai 2011. Et depuis en fait, j'ai suivi l'évolution du mouvement. Donc la transformation du mouvement qui s'est décentralisée dans les quartiers d'abord. J'ai beaucoup travaillé sur Madrid, suivi le mouvement à Madrid. Et une des évolutions, alors même si Podemos n'est pas directement issu des indignés, mais il s'inscrit clairement dans cette vague des indignés, ça a été d'observer l'émergence de Podemos. Et donc comment est-ce qu'on peut expliquer ce passage d'un mouvement social à un parti politique? Au début, quand Podemos émerge, c'est un parti qui émerge le 17 janvier 2014, il se définit comme un mouvement politique, plus qu'un parti politique, en disant « il y a assez de partis politiques, nous ce qu'on veut faire c'est un mouvement ». Et ce qui se passe, c'est qu'ils vont se présenter d'abord pour les élections européennes, où ils créent la surprise. Podemos remporte 8% des suffrages, 5 sièges de députés européens. Et à partir de là, ils vont chercher à se structurer davantage, parce que la structure était assez fragile. Et dans ce mouvement d'institutionnalisation du parti, en fait, l'option d'organisation qui va être retenue, ça va être l'organisation la plus classique, finalement. Donc là, ça crée un certain nombre de tensions. Et celle qui a été portée par Pablo Iglesias et par son équipe était la proposition qui était la plus centralisée, la plus verticale, avec un secrétaire général, hein, rien que le terme de secrétaire général, avec une équipe rapprochée, et puis des conseils citoyens qui sont élus au niveau national, régional, municipal. Et ça retirait du pouvoir, en fait, aux militants qui s'étaient impliqués dans des cercles. Les cercles, c'est l'organisation de base de Podemos qui s'était multipliée de manière assez spontanée après le lancement du projet.
Ça va commencer, là, le cercle. Podemos, San Blas Canillejas, Somos Quijotes, nous sommes les Don Quichotes.
Soy Manuel Izaguirre, 29 años.
Je suis Manuel Izaguirre, j'ai 29 ans.
Miembro del círculo de Podemos de San Blas Canillejas.
Membre de ce cercle Podemos ici de San Blas Canillejas.
He venido desde que se fundó el partido.
Depuis le parti a été fondé,
desde esa fecha más o menos vengo acudiendo habitualmente.
Donc je viens régulièrement ici.
Y un círculo, bueno, pues es una forma de organización.
Un cercle, c'est une façon de s'organiser, c'est une organisation.
Que surge de las bases, ¿no? Y de alguna manera de gente que venía indignada del movimiento del 15M.
Qui naît de la base et qui vient d'une certaine façon du mouvement des indignés en 2011.
Es lógico que mucha gente relacione que el movimiento, o sea, que Podemos sea fuente de o beba del movimiento del 15M y no está tan claro, puesto que a lo mejor hay un 15, un 20%.
Effectivement, beaucoup de gens disent que Podemos est issu de ce mouvement des indignés du 15 mai 2011. Mais il y a que 20%, disons, de la force de ce mouvement qui vient des indignés.
El círculo es una forma de organización que hemos encauzado sobre todo para debatir, proponer.
Donc c'est une organisation que l'on a créée pour pouvoir débattre, pour pouvoir se rencontrer, pour pouvoir échanger et se mettre d'accord sur des questions.
Yo personalmente trabajo, bueno, una comisión, quizás es un grupo de trabajo o un taller, por así decirlo.
Donc moi j'anime un groupe de travail ici, une commission, comme on dit.
Que tiene por objetivo, pues, la formación política.
Donc l'objectif, c'est d'aider à la formation politique.
Cada 15 días nos juntamos unas cuantas personas de miembros del círculo y otras personas de fuera.
Donc tous les 15 jours on se réunit ici des membres du cercle mais d'autres personnes aussi.
A nivel qué es la política, nos hacemos preguntar acerca de qué es la
politique,
qué es la ética.
Qu'est-ce que c'est que l'éthique?
Quelle union peut y avoir entre politique et éthique?
Alors quelle union, quel lien il peut y avoir entre politique et éthique?
Et con otras temáticas, por ejemplo, también hablamos de género, de feminismo.
On parle aussi des questions du genre et des questions du féminisme.
Y bueno, eso de alguna manera por lo que nos está haciendo es dinamizar bastante el grupo y que todos de alguna manera estemos aprendiendo, enseñando.
Et donc il faut qu'on soit tous en train d'apprendre en enseignant.
Vamos a empezar la asamblea, hoy modero yo. Todos tenéis un orden del día que podéis ver, que es el orden del día que vamos a seguir. Habrá un turno de preguntas o de comentarios. Hay que pedir la palabra, breves y concisos, porque normalmente se nos desbordan los tiempos.
Héloïse Ney, quelles sont les composantes supplémentaires, donc disons de la composante qui vient du 15 mai, du 15 mai, donc de ce qu'on appelait les indignés, los indignados espagnols, donc l'occupation de la Puerta del Sol, de la place centrale madrilène. Quelles sont les autres composantes donc qui créent Podemos?
Si on regarde les fondateurs, ils ne sont pas issus des indignés, dans le sens où ils se sont politisés bien avant. Dans les fondateurs, il y a deux noyaux. Il y a un premier noyau qui est universitaire, ce sont des professeurs, des jeunes professeurs trentenaires de sciences politiques de l'université La Complutense à Madrid. Pablo Iglesias est l'un des membres de ce premier noyau, on va dire, qui sont des gens en fait qui ont déjà réfléchi à un projet de représentation politique alternative, en s'inspirant beaucoup des expériences latino-américaines qu'ils ont analysées et conseillées. Et la quasi-totalité, ils ont milité auparavant à Izquierda Unida, qui est la gauche unie en Espagne, l'équivalent un peu du front de gauche, mais ils sont très déçus par Izquierda Unida. Et donc, ils veulent créer un autre parti politique. La deuxième composante dans les fondateurs, c'est des militants d'Izquierda Anticapitalista, la gauche anticapitaliste, qui est une organisation comme le NPA en France. Où là, l'une des figures, c'est Teresa Rodríguez, qui est la leader de Podemos en Andalousie. Ça va être dans les fondateurs, ceux qui vont lancer le projet. Après, il va y avoir des gens qui vont les rejoindre assez vite, qui sont notamment issus du mouvement de lutte contre les expulsions de logements en Espagne, qui est un mouvement assez fort. Ça, c'est pour les fondateurs. Mais si on regarde les militants après de base, des cercles, là on va avoir un certain nombre de gens qui se sont politisés avec les indignés. Et d'autres, enfin, vont se politiser avec Podemos, vont entrer en politique avec Podemos. Et donc le lien, en fait, finalement, au niveau des militants, avec les indignés, il va plus être au niveau des militants de base qu'au niveau des fondateurs qui étaient déjà bien politisés avant le mouvement des indignés, qui étaient notamment impliqués dans tout ce qui est mobilisation altermondialiste et mouvement étudiant. Donc c'est notamment dans ce type de mouvement qu'ils se sont socialisés politiquement.
Bienvenidos a la tuerca.
Esta tuerca es diferente.
Bienvenido a otra vuelta de tuerca. Muchas gracias por venir.
Un placer estar con vosotros.
Y temo que nunca os han preguntado realmente qué opináis.
Buenas noches y bienvenidas a Tuerca News, programa número 14 de la temporada y el último antes del gran momento, las elecciones generales.
Esta noche mi gente de frente tiene una cuenta pendiente y la va a querer cobrar. Los callejones vomitan.
Héloïse Ney, il y a aussi une autre composante dans la montée en puissance de Podemos, c'est de travailler, de faire ses propres médias.
Effectivement, la stratégie en fait de communication audiovisuelle, elle est centrale dans la stratégie des fondateurs de Podemos. Avant même qu'ils créent Podemos, les universitaires de la Complutense créent leur propre émission de débat politique, la Tuerca, donc cette émission qui est d'abord passée à Tellez Vallecas, qui est maintenant retransmise par Publico, en disant « il faut utiliser les outils de l'ennemi ». Pour que notre discours puisse dépasser les cercles des salles d'université, des colloques, pour faire en sorte que ce discours puisse atteindre une majorité de la population.
Comme un bruit qui court.
Sur France Inter.
Hola, queremos recordar que en la página madrid.tomalaplaza.net, todo lo que no está ratificado en esta página.
Ah oui, alors il y a aussi l'utilisation des réseaux sociaux. Et là, Podemos est très en avance par rapport aux autres partis. Ça s'explique en partie parce que l'équipe qui s'occupent des réseaux sociaux à Podemos, ce sont des jeunes entre 20 et 30 ans qui se sont formés au sein du mouvement des indignés, qui étaient impliqués dans la gestion des réseaux sociaux sur la place à Puerta del Sol, en gros. Et donc, du coup, ils vont avoir appris un certain nombre de stratégies pour utiliser ces réseaux sociaux qui sont... En Espagne, il y a une utilisation des réseaux sociaux bien supérieure que dans le contexte français.
Este mundo es perfecto, dale, pataditas a la lata. Si no lo haces tú, dime quién te ata. Pa' fuera los colores, la corbata. Que arte y osica no te sirve de nada. Como sucedáneos en el ultramarino, a este mundo vinimos. Sí, pero ¿qué hicimos? Lo mediocre justifica lo divino. ¿Y qué les digo yo a la abuela? Que cerraron las escuelas, monto un caballo sin espuela. Y me deja que lo monte, porque lo trato bien. Hace rato ya que desaparecieron los modales, los modelos a seguir son cuatro subnormales y todavía somos hermanos. No voy a llorar porque así no se consigue nada y yo soy caprichosa. Quiero llegar a mi choza y tener agua, agua. ¿Cuál es tu guerra? Si te mueres en tierra, la nana que yo canto me le inspira la niebla sobre la tierra. Que me corte la cabeza si no me funciona. ¿Cuántas se quedan? 18 neuronas, plasma, benzil, figue y otros antojos. Ya os veo ya convertidos en rastrojos, pingajos, con esos despojos sobre los hombros. Hombres y mujeres equivocados, comiendo la ración entera de un bocado. Bajo el sol somos lo mismo. Y si no nos desnudamos, y si no bailamos, y si no comemos, y si no reímos, y si no follamos, y si no cagamos, ¿en qué nos diferenciamos? ¿Qué nos parecemos? ¿Por qué nos matamos? ¿Por qué tienen sed? ¿Por qué? Si teniendo agua no se la damos. Son solo niños. El presidente cabrón está ahí porque lo votamos. Abro la ventana, siento el aire moviendo mis ramas. Mundo mío, estás tocándome la membrana. Que se vendió más barato el jaco, la manzana. Cualquiera puede amarme, cualquiera matarme, cualquiera sentenciarme. Pero ¿quién me libera? No existe enfermedad certera. Todo esto es puro cuento.
¡Sí se puede!
¡Sí se puede! ¡Domingo, sí se puede! ¡Ya podemos!
Alors, José, là c'est une réunion informelle du cercle del Círculo Podemos de Paris, c'est ça?
C'est ça, oui, complètement. On est ici, on est à la veille des élections, on attend impatiemment les résultats. Et on est optimiste parce que, quoi qu'il soit le résultat des élections,
on sait que de toute manière, l'avenir nous appartient. On a déjà gagné parce qu'on sera deuxième, on sera troisième, on sera premier, mais on a imposé quelque chose de nouveau. On a imposé quelque chose de nouveau dans la campagne présidentielle. Une discussion de fond qui va porter sur, qui porte déjà sur ce qui est nouveau, sur de nouvelles manières de faire de la politique, sur de nouvelles manières de participer, qui puissent ses racines dans les mouvements des indignés, contre ce qui est ancien, et ça c'est absolument indispensable, de penser la politique en ces termes-là, aujourd'hui. C'est-à-dire, on a appris qu'il faut peut-être penser la politique, pas en des termes d'identification avec quelque chose, mais dans des termes plutôt de capacité d'être ensemble pour faire des choses. Donc on a gagné, oui, on a gagné déjà. On sera deuxième, troisième, c'est pas grave, mais on sera là, il va falloir compter sur nous. On n'est plus dans ce récit de la défaite. On est plutôt dans un pari de construction d'un avenir en commun. On a gagné cette possibilité de le faire, cette possibilité qui nous a été interdite jusque-là et qui maintenant s'ouvre à nous.
Et vous, Irma, aussi, alors vous êtes réunis là avec ce cercle Podemos parisien, informel, en cette veille de scrutin crucial.
Absolument crucial. Personnellement, c'est la première fois que je vis une situation comme ça en Espagne. C'est une situation où nous avons la sensation qu'on nous écoute, que c'est le peuple qui est en train d'emporter ces élections. C'est une situation où rien qu'à l'extérieur, les personnes sont en train d'aller massivement voter. Donc il y a un changement qui part de la base, qui part du citoyen, qui part de la population, qui démontre une évolution de la conscience collective, individuelle et de là où on est et qu'on veut changer les choses et qu'on est en train de le faire et c'est un changement, c'est une évolution et pour la gauche c'est un succès. Viva Podemos!
C'était Comme un bruit qui court. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter. Vous y retrouverez notamment les références de l'ouvrage d'Héloïse Ney, Podemos, de l'indignation aux élections. Après les informations, vous retrouvez la preuve par Z. Et nous, on se retrouve samedi prochain à 16h.